Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, bienvenue parmi nous. Bonjour la belle-mère, soyez bénie. Désolé pour les quelques instants de retard, je suis 3 minutes en retard sur mon horaire habituel. J'étais en train de finir des documents pour. En fait, je collabore avec un ministère qui prie pour les députés de l'Assemblée nationale à Québec. Donc, une ou deux fois par année, on me demande de composer quelques textes de prière ou d'intercession à l'égard de quelques députés. Donc, j'étais en train de travailler là-dessus. Voilà pourquoi je n'ai pas vu l'heure passer. Alors, j'espère que vous allez bien. Une belle journée qui s'annonce ensoleillée aujourd'hui. Pas trop chaud, pas trop humide. Demain, ça sera un peu différent. Il y aura un facteur humidex qui va embarquer demain, mais pour aujourd'hui, c'est une journée bien agréable, je suppose, pour la plupart d'entre vous. Bonjour à la sœur Susanna. Que Dieu me la bénisse, hermana. Good morning, Aniris. God bless you. Stay blessed, indeed. Alors aujourd'hui, on poursuit avec le verset 15 dans Philippiens au chapitre 3. Donc ceux qui ont leur Bible peuvent déjà ouvrir. Bonjour Denise, bonjour Gérard, bienvenue parmi nous encore une fois. Bonjour Jocelyne, bonjour Jacques, soyez bénis. Bonjour Natacha. Je crois que je vais m'éclipser quelques secondes juste pour aller chercher une bouteille d'eau. J'ai oublié de m'en prendre une. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Bonjour à ma mère et à mon père. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Bonjour Samek, que Dieu vous bénisse. Merci pour les salutations du pasteur Dilga plutôt. Je le garderai dans mes prières. Bien heureux que les visites au niveau des communautés des Premières Nations puissent redémarrer. Je sais que ça lui tenait à cœur et que ça a été compliqué à travers la dernière année. En raison de la pandémie. Donc, on prie que le Seigneur puisse l'accompagner et l'utiliser dans cette noble mission qu'il lui a confiée. J'ai pas eu le temps d'aller m'acheter un café ce matin parce que ma machine à l'église est en panne. Donc je dois y voir. Et puis voilà, j'étais pris avec les documents dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce matin, je vais me contenter d'une bouteille d'eau. j'étais content ce matin de voir ma petite équipe qui était là aujourd'hui. Il y avait le frère Gilles, le frère Claude Cinéas, la sœur Patricia qui était là de bonne heure ce matin pour travailler au niveau de l'administration. Bonjour Thérèse, 8h26. Alors Thérèse, je dois t'expliquer. Hier, à 8h26, j'ai annoncé ton arrivée pour 8h27. Et finalement, je n'ai pas vu ton nom s'afficher. Donc, tu as été saluée. Et puis, mais je n'ai finalement. J'ai dit, je vais prendre de l'avance. Dans une minute, vous allez voir la sœur Thérèse qui se branche. Et là, pour X raisons, tu n'es pas apparu. Donc, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Sois bénie, Thérèse. Bonjour à la sœur Rosie. Que Dieu vous bénisse. Encore quelques minutes avant qu'on ne débute ce matin. Alors, toujours notre étude qui nous mène dans Philippiens au chapitre 3. Et demain, on sera un peu plus dans l'étude parce qu'on a un dernier verset à étudier pour demain. Donc, voilà. On sera quand même dans le jeûne et dans la prière, mais on prendra le temps d'étudier le verset 16 demain pour compléter l'ensemble de cet enseignement. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. Bien content d'apprendre que tout a bien été, Thérèse. Sois bénie. Bonjour, bonjour Rachel. Bonjour à Mona. Mona, content que tu sois avec nous ce matin. J'ai prié pour toi hier. Je sais que physiquement c'est un peu compliqué. Donc que le Seigneur puisse te bénir. Bonjour à la sœur Ocilia. Il fait effectivement chaud chez vous, Rosie. Ici, aujourd'hui, on se contente d'un 24 très agréable. Mais demain, ça va être un peu plus humide, donc un peu plus pénible. On parle du facteur humidex demain. Il va faire 28 plus le facteur humidex. On devrait monter dans les 30 et quelques. Bonjour, Jane. Que Dieu te bénisse. Donc, je vais prendre juste quelques instants avant qu'on ne débute pour vous rappeler de nous appeler pour l'inscription pour l'assemblée de dimanche. Comme on l'a dit la semaine dernière, les inscriptions se doivent d'être renouvelées à chaque semaine. Donc, si vous vous êtes inscrit la semaine dernière, ça ne veut pas dire que vous êtes inscrit vous êtes inscrit systématiquement la semaine suivante. À chaque semaine, il vous faut appeler ou nous écrire pour l'inscription. Donc, cette semaine, on est un peu plus lent dans la rentrée des inscriptions. Donc, on vous demande vraiment de nous appeler. Et ou de nous écrire pour l'inscription pour l'assemblée de dimanche. Vous savez que contrairement à l'année dernière, on reçoit cette année les enfants de 8 ans et plus. Donc si vous voulez venir avec votre enfant, s'il est âgé de plus de 8 ans ou plus, vous pouvez donc le faire, l'inscrire pour être avec nous aussi ce dimanche. Donc ne tardez pas, inscrivez-vous pour l'assemblée de ce dimanche. Et pour ceux qui ont un papa, c'est peut-être l'occasion aussi de l'inscrire, de venir avec lui, puisque ce dimanche, ça va être la fête des pères et on aura un message, un peu comme on a fait pour la fête des mères, un message un peu plus orienté pour les pères de notre congrégation. Bonjour à Didier, que Dieu te bénisse. Bonjour Soraya. Bonjour Babette. Alors simplement m'excuser s'il y a du bruit dans la ruelle de l'église. Ils font des travaux actuellement, donc les travaux me suivent. Quand je ne suis pas à la maison avec avec les travaux de construction, ben c'est à l'église qu'on entend cela. Ah, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Jen. Moi, le moins 20, moins 30, moins 40, je peux pleinement en profiter. J'ai aucun trouble avec ces températures-là. OK, alors on va prier et on va débuter pour ce matin. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour cette autre opportunité que nous avons de plonger nos regards dans ta parole afin d'être nourris et rafraîchis par elle. Nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer, d'ouvrir notre entendement et déjà nous prions que la parole qui sera partagée ce matin soit aussi inondée, soit aussi arrosée par ton onction afin, Seigneur, qu'elle puisse croître et porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension et permets-nous d'avancer dans ta présence et d'avancer dans le travail que tu nous confies en tant qu'Église et plus particulièrement en tant que croyant, en tant que chrétien individuellement. Alors que ta grâce nous soit accordée. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis moi aussi, Seigneur, à travers cette matinée. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à cette bénédiction matinale du jeudi 17 juin 2021. On étudie cette semaine, suite à la prédication du pasteur Sergio donnée ce dimanche, on étudie le passage de Philippiens 3. Donc l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, du verset 12 au verset 16. Et plus particulièrement aujourd'hui, on étudie donc le verset 15. Je lis pour vous le passage de cette semaine et je reprendrai une ou deux fois le verset 15 à la toute fin de la lecture. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Je reprends pour vous le verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Alors, toute cette semaine, on parle sur une thématique intéressante et importante, soit celle de vivre une vie pleine à son maximum, une vie épanouie dans la présence de Dieu. Et pour nous qui sommes croyants et qui comprenons ce à quoi a été appelée notre vie ou pourquoi la vie nous a été accordée, une vie aussi qui sert à l'avancement du royaume de Dieu. À travers les trois dernières journées, on avait des sous-thématiques pour chacune des journées. Donc, c'était toujours expérimenter la vie à son maximum, mais savoir qu'un des premiers ingrédients, c'était d'avancer avec un objectif, soit servir la cause de Christ. Ça, c'était lundi. Mardi, on a vu que pour vivre une vie à son maximum, il fallait laisser en arrière le passé qui pouvait être inutile et se porter vers l'avant. Ne pas être bloqué par notre passé, qu'il soit douloureux ou qu'il soit glorieux, que notre passé ne soit pas un frein dans notre cheminement avec Christ et dans notre service au roi des rois. Hier, on a parlé de vivre et de concourir ou de courir avec une attitude de gagnant, sachant que nous sommes des champions appelés à être des champions par Christ, alors que nous devons donc avancer avec cette attitude de gagnant, celui qui dit je ne m'arrête pas ici, je continue à avancer, et celui qui avance et qui travaille et qui demeure productif pour le Seigneur jusqu'à son dernier souffle. Et aujourd'hui, on nous parle d'une situation qui survient régulièrement dans notre vie de tous les jours, que ce soit à l'intérieur du corps de Christ comme à l'extérieur du corps de Christ, mais bien entendu, on va parler plus précisément aujourd'hui de cette problématique au sein de l'Église à l'occasion où on peut avoir des divergences d'opinion, où on peut avoir même des différences et des divergences avec nos frères et nos sœurs. Et la thématique d'aujourd'hui, faire fi de nos opinions et de nos différences pour voguer et vaquer à la vocation céleste. Donc, faire fi de nos opinions et de nos différences pour vaquer à la vocation céleste. La première chose que Paul nous dit, nous tous, donc, qui sommes parfaits. Il dit, nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits parce que appelés au salut, nous sommes parfaits parce que unis à la perfection même de Christ. Ce qui est intéressant avec le fait de dire nous tous qui sommes parfaits, c'est que Paul ne met pas une gradation entre les croyants. C'est vrai que dans le corps de Christ, qui est une armée, qui est un édifice, qui est un groupe qui avance, il est effectivement vrai que chacun n'a pas la même tâche, que certaines personnes sont appelées à servir dans la direction du peuple de Dieu, à servir comme leadership au sein du peuple de Dieu, et que d'autres ont d'autres fonctions. Mais dans ces diverses fonctions qui sont respectives à chacun d'entre nous, il n'y a toutefois pas de supériorité. Il y a des tâches qui sont demandées à certains qui ne sont pas demandées à d'autres. Il y a des rôles de leadership et de conducteurs qui sont demandés à certains qui ne sont pas demandés à d'autres. Mais après ces notions de conduit et de conducteur, il y a par contre une égalité entre chacun d'entre nous. L'égalité qui s'opère dans le corps de Christ est basée sur le fait que chacun d'entre nous avons reçu un appel précis. Lorsque tous les membres d'un même corps ont un seul appel et une seule fonction, on peut effectivement grader, faire la gradation du service de l'un par rapport au service de l'autre, l'importance de la fonction de l'un par rapport à la fonction de l'autre, et surtout le rendement du travail de l'un par rapport au rendement du travail de l'autre. Mais lorsque nous sommes totalement diversifiés au niveau des fonctions, au niveau de l'appel, au niveau des dons, lorsque chacun d'entre nous comprend qu'il a précisément reçu quelque chose de la part de Dieu, cette diversité des dons, des talents, de l'appel et de la vocation fait en sorte que nous retombons à une même ligne d'égalité ou à un même niveau d'égalité. Nous avons tous reçu quelque chose de particulier de Christ et nous aurons tous à rendre des comptes sur le service qui nous est rendu. Dans la parabole des talents, on ne voit pas que celui qui a reçu 5 talents est plus important que celui qui en a reçu 2, voire plus important que celui qui en a reçu 1 seul. On nous dit que chacun a reçu selon ses capacités. Ça veut donc dire que le dénominateur commun pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu donne ce qui est approprié à chacun d'entre nous, et nous aurons les mêmes comptes à rendre à chacun de chacun de nous par rapport au service que nous aurons rendu à Dieu. Alors nous sommes unis dans la perfection de Christ et nous devons travailler à cette unité. Que ce soit aujourd'hui ou demain, nous allons parler effectivement non seulement des divergences. Aujourd'hui, on parle de nos divergences d'opinion, parfois même de nos opinions qui viennent s'opposer les uns aux autres, mais demain, on va parler davantage de l'unité. Donc, foncièrement, ce qu'on doit savoir aujourd'hui, c'est que nous sommes tous unis dans la perfection de Christ. Ça veut dire que ma sœur qui est dans un cheminement propre à elle, ma sœur qui est dans une fonction qui est propre à elle, n'est pas meilleure ni inférieure à moi. Elle est tout simplement une autre brique qui vient former l'édifice qu'est supposé être l'Église. Et cette brique-là, si elle n'est pas à sa place, ça fait une brèche, ça fait un trou. Tout comme si moi je ne suis pas à ma place, si je ne suis pas en train de remplir la vocation que Dieu m'a accordée, je suis moi aussi en train de laisser un trou béant dans l'édifice que Christ a pour chacun d'entre nous. Deuxième point important, on parle maintenant de cette perfection de Christ qui devrait nous pousser à poursuivre la vocation de Christ. Relisons le texte. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Quelle était cette pensée? Si on revient dans les versets précédents, dans les versets que nous avons étudiés dans les jours précédents, on se rend compte que le dénominateur ou la pensée commune pour nous tous, c'est donc la pensée de la vocation de Christ. Donc, quel est le travail que tu as reçu de la part du Seigneur? Quel est le travail que j'ai reçu de la part du Seigneur? Quel est le mandat qui nous a été accordé respectivement à chacun d'entre nous, et sommes-nous en train de faire ce travail? Donc, si nous nous concentrons sur le travail que nous devons faire, bien entendu, on aura moins de temps pour parler de nos désaccords et parler de nos divergences d'opinion. Alors, la chose qui doit nous unir, c'est que nous sommes tous attablés, nous sommes tous attelés à l'œuvre de Dieu. Une œuvre différente probablement pour chacun d'entre nous, une œuvre qui peut comporter des différences au niveau de comment on le fait, au niveau de la portée de celle-ci, au niveau du temps et des efforts, au niveau de la population à laquelle elle est consacrée, mais une œuvre qui reste la même dans le sens où elle sert à faire avancer le royaume de Dieu. Donc cette perfection de la vocation de Christ devrait nous poursuivre, devrait nous aider plutôt à poursuivre la vocation de Christ. Pourquoi? Rappelons-nous qu'il n'y a pas de plus belle tâche que de travailler pour Dieu. En fait, il n'y a pas une tâche plus noble. Aujourd'hui, je suis en train de composer, je le disais tout à l'heure, des prières qui vont être élevées envers les députés de l'Assemblée nationale. Un organisme chrétien, un ministère chrétien avec lequel je collabore depuis maintenant 1 an environ. Et une fois par année, on demande à certains auteurs de tout simplement composer certaines prières qui vont être partagées avec la population et avec le député concerné pour sa journée. Donc aujourd'hui, j'étais en train de composer certaines de ces prières et je disais dans l'une d'entre elles que c'est une tâche noble de servir sa population. Croyez-moi, il n'y a pas de plus haute tâche, de plus haute responsabilité, il n'y a pas une vocation plus importante que celle de servir Dieu. Quel que soit le service, quel que soit l'appel, quelle que soit la fonction et quelle que soit la vocation particulière que Dieu pourrait avoir adressée à mon frère, à ma sœur ou à moi-même. Comprenant que c'est le Dieu créateur de l'univers, que c'est aussi le Seigneur et le Sauveur de ta vie, celui qui n'a pas hésiter à donner sa propre vie pour ton salut et ta vie éternelle? Est-ce qu'il y existe en fait un service plus haut, plus noble, plus merveilleux que de rendre à notre Seigneur si faiblement qu'on puisse le faire avec toutes les lacunes qui sont le nôtre, mais qu'on puisse rendre une partie de la grâce qui nous a été accordée en servant notre Seigneur. Donc, nous sommes parfaits, unis dans la perfection de Christ, premier point. Deuxième point, cette perfection de Christ devrait nous pousser à poursuivre la vocation qui nous a été lancée, sachant que cette perfection, en fait, est le salut qui nous est accordé de Christ. Est-ce qu'on peut se limiter à se tourner les pouces et à attendre éventuellement que le jour du Seigneur arrive et qu'il vienne nous chercher pour être dans sa gloire? Est-ce qu'on peut attendre cette journée-là tout simplement en se tournant les pouces, ou est-ce qu'on ne devrait pas servir le Seigneur avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons, avec toutes nos forces et surtout avec tous les talents et les dons qu'il a déjà placés en chacun d'entre nous? Troisième point. La vocation de Christ devrait avoir primauté, devrait avoir priorité sur toute situation dans nos vies. Je relis le texte. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul est en train de dire, on peut avoir des divergences d'opinion. On peut avoir des approches qui sont différentes. Et sur certains points même, on peut être dans deux opinions diamétralement opposées. Mais ce qui prime au-delà de mon opinion, au-delà de mes avis, au-delà de mes particularités doctrinales, au-delà de mes particularités propres à mon ministère, ce qui doit primer, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Donc, la vocation de Christ en nous doit avoir primauté par rapport à toute situation, dont nos divergences d'opinion. Il y a des gens qui, malheureusement, font de la divergence d'opinion leur cheval de bataille. Ils ne naviguent sur la vie, ils ne naviguent sur leur chemin ici-bas sur terre qu'en étant sur cette embarcation qui s'appelle « Je suis d'un avis contraire ». Et si je suis d'un avis contraire, c'est comme s'ils ont reçu la mission par l'Esprit-Saint de faire valoir leur point au détriment de tous les autres. Paul est le plus grand théologien chrétien de l'histoire de l'Église. Comment je peux affirmer une telle chose? Tout simplement parce que Paul a écrit la majeure partie de tous les textes à la base de la foi chrétienne. Paul est celui qui a écrit le trois quarts du Nouveau Testament. Ça veut donc dire que Paul a eu des révélations qui émanaient directement du trône de grâce, révélations sur lesquelles l'Église même est fondée. Et Paul disait, regardez, si vous avez une opinion différente du mien, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai raison ou que vous ayez raison, ce qui compte malgré tout aujourd'hui, c'est que nous puissions continuer à avancer, que nous puissions mettre de l'avant la vocation de Christ. Je vois trop malheureusement de chrétiens, particulièrement dans cette saison de pandémie. Je vois trop de chrétiens qui régulièrement font des débats, notamment sur les médias sociaux, pour savoir qui a raison dans l'explication théologique de la situation actuelle, dans l'explication théologique de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce faisant, on suscite des conflits entre frères. Ce faisant, on crée des divisions entre frères. Il y a même des gens qui ont appelé certaines églises de fausses églises, certains serviteurs de Dieu de faux serviteurs de Dieu, des vendus, des faibles, des illuminés, des fous. Il y a toute cette terminologie-là qui a été répandue au lieu de se concentrer sur la chose qui est importante, gagner cette génération-ci pour Christ. Quoi que nous révèle avec le temps le Seigneur par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, quoi que puisse être la vraie définition spirituelle de ce qui se passe aujourd'hui, il reste et il demeure une chose, notre vocation n'a pas changé. Et notre vocation est de gagner un maximum de gens, un maximum d'hommes et de femmes à la cause de Christ. Et en se bagarrant et en se mordillant les uns les autres pour faire avancer son point, plusieurs ont oublié la cause pour laquelle nous étions appelés, qui était sauver cette génération d'une condamnation éternelle. Alors je prie pour toi et pour moi ce matin, si effectivement on est tombé dans ce piège des divergences d'opinion, et si ces divergences d'opinion ont eu primauté par rapport à l'appel de Dieu, et primauté par rapport au service de Dieu, et primauté par rapport très, très contextuellement à l'évangélisation, je prie qu'on revienne de nos mauvaises voies et qu'on dise, Seigneur, combien de temps avons-nous perdu? Pardonne-nous, Seigneur, et permets-nous tous ensemble, peu importe nos opinions, peu importe nos divergences, tous ensemble qu'on puisse se rejoindre sur ce point. Cette génération a besoin de Jésus et il est de ton devoir, de mon devoir, en tant qu'enfant de Dieu, de remplir cette vocation, de sauver cette génération. Donc, la vocation de Christ devrait avoir primauté sur toute situation, dont nos divergences. Je rajouterai dans les deux prochains points, toujours sur la question de la divergence d'opinion, prochain point, donc quatrième point ce matin, chercher à avoir raison peut souvent devenir plus précieux à nos yeux que la vocation de Christ, et c'est un grand malheur. Lorsque le fait d'avoir théologiquement raison, lorsque le fait d'avoir une interprétation, entre guillemets, prophétique de ce qui se passe actuellement est plus important à mes yeux que de sauver le perdu qui se destine à la condamnation éternelle, je suis coupable devant Dieu. Et malheureusement, très souvent, on est tombé dans ce piège-là, du fait de vouloir à tout prix avoir raison, et je ne passerai à autre chose que lorsqu'on aura confirmé qu'effectivement j'ai raison. Paul était rendu ailleurs. Paul disait, regardez là, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera. J'ai du temps que je ne veux pas perdre. Nous avons du temps que nous ne devons pas perdre. Consacrons-nous, concentrons-nous sur la vocation de Christ, sauver cette humanité d'une déchéance et d'une condamnation éternelle. Si Paul avait cette sagesse qui venait de Dieu quant à son positionnement, quant à son rôle de leader, et il disait, je suis prêt à laisser de côté le fait d'avoir raison, tout simplement parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse tous se concentrer à sauver cette génération. Est-ce qu'on pourrait prendre ce pacte? Est-ce qu'on pourrait faire ce pacte entre nous et entre le Seigneur de dire, Seigneur, je vais laisser les futilités de l'interprétation d'un calendrier, de l'interprétation d'une politique, de l'interprétation d'une situation sociale-politico-économico et tout le Bataclan qui vient avec pour dire, Seigneur, la seule chose qui doit primer chez moi, c'est de gagner cette génération pour Jésus. Alors, je prie effectivement que nous ayons cette même attitude. Et je vois là ce matin qu'on est en train de déranger le diable et ses agents. Ce matin, ils sont nombreux à vouloir venir nous présenter un autre évangile que l'évangile de Christ. Mais notre Seigneur reste celui sur lequel nous nous concentrons et celui auquel nous nous consacrons. Dernier point. Certains de nos désaccords ne seront pas résolus ici-bas sur terre par nos efforts humains. Paul va dire, regardez là, si vous êtes en quelque point sur une différente longueur d'onde que moi, Dieu saura aussi vous éclairer là-dessus. Donc Paul dit, moi je ne veux plus débattre. Je vous ai expliqué la chose, je vous ai montré la chose et je ne veux plus débattre. J'ai eu cette même attitude concernant la pandémie. À un moment donné, je m'apprêtais à expliquer certaines choses à quelqu'un et j'ai senti de la part du Seigneur, Florent, tu es en train de perdre ton temps. Florent, ce n'est pas important, cette chose-là. Tu dois te consacrer sur l'important qui est sauver cette génération. Et j'ai écrit à la personne à qui j'avais promis de lui expliquer mon point de vue. J'ai dit, regarde, j'ai senti de la part de Dieu de ne pas aller là. Parce que ça ne sert pas la cause de Christ. Il y a autre chose à faire. Paul avait cette sagesse et j'aurais dû avoir cette sagesse durant toute ma carrière de pasteur et particulièrement pendant cette saison de pandémie. Oui, il y a des choses qui m'ont fait sauter. Oui, il y a des choses qui m'ont qui m'ont animé et d'une certaine férocité. Mais en bout de ligne, après ça, ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est qu'on se lève pour prêcher qu'il n'y a qu'un seul sauveur, que nous avons tous besoin d'un sauveur et que cette génération, si elle ne rencontre pas ce sauveur, elle va rater son rendez-vous d'éternité et elle passera cette éternité en enfer, loin de Dieu. Et c'est ça l'important pour toi et pour moi. Et Paul disait, regardez, il y a ces désaccords que je ne réglerai pas, ce sera le Seigneur lui-même qui les réglera. Mais passons à autre chose. Alors je prie qu'on ait cette maturité, qu'on ait aussi cette humilité. Vivre notre vie pleinement pour Christ, c'est aussi se débarrasser des choses futiles. Et parfois, avoir raison est une chose futile. Du moins, la quête incessante qu'on peut avoir pour qu'on reconnaisse qu'on a raison, c'est quelque chose de très futile. Et Paul disait, à un moment donné, j'arrête de me battre, je laisse ça entre les mains de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu, vous êtes fils et filles de Dieu, et lui saura vous guider. Alors je prie que nous ayons cette sagesse, cette humilité que nous démontre ici l'apôtre Paul, et humilité qui habitait aussi dans notre Seigneur qui aurait pu dire la veille de son arrestation, ou la soirée en fait de son arrestation, la veille de sa mort, Jésus qui aurait pu dire, Hey, je suis le plus élevé parmi vous et vous ne m'avez pas lavé les pieds. Je suis le plus élevé parmi vous et vous n'avez pas pris soin de moi comme vous devriez. Jésus est allé mettre le chiffon autour de ses reins et s'est mis à laver les pieds de ses disciples, démontrant à chacun, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas un qui est plus élevé que l'autre. Ce sont simplement des responsabilités différentes qui sont confiées à un et à l'autre. Mais cette diversité de mandats, cette diversité d'appels, cette diversité de tâches fait en sorte que nous devenons égaux, tous et chacun, devant les attentes de Dieu à l'égard de toi, à mon égard, à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Alors prions ce matin que nous ne tombions pas dans ces guéguerres, hein, comme on dit de ce côté-ci de l'Atlantique, qu'on ne tombe pas dans ces guerres de mots, dans ces guerres tout simplement futiles de qui a raison, de qui a une compréhension plus précise, plus adéquate, plus juste. Rappelons-nous d'une chose. Il y a une génération qui est en train de mourir. Et pendant que nous débattons futilement sur un tas de choses, il y a cette génération qui fait un pas de plus à chaque jour vers l'enfer. Est-ce que tu peux te coucher tranquillement ce soir en pensant que tu as passé des heures et des heures à débattre sur un sujet au lieu d'aller apporter l'évangile à ceux qui périssaient? Voilà ce que nous avions pour nous ce matin. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment, assurément un moment ce matin où tu nous secoues, où tu viens, Seigneur, nous reprendre dans notre orgueil, dans notre fierté, dans notre désir mal placé d'avoir raison. Il y a de ces échanges et de ces débats que personne ne peut gagner ici-bas sur terre. Il y a des réponses que nous n'aurons que nous lorsque nous serons en ta présence et que toutes choses nous seront révélées. Alors je prie, Seigneur, que dans notre conduite quotidienne, je prie, Seigneur, que dans notre comportement, notre attitude, nos paroles, nos gestes, nous ne soyons pas de ceux qui cherchent à tout prix à avoir raison et à être reconnu comme ayant eu raison. À l'occasion, Seigneur, tu places des situations devant nous et tu nous demandes de nous taire. À l'occasion, tu permets des circonstances autour de nous et tu nous demandes, Seigneur, de ne pas crier la vérité que nous connaissons, mais parce que tu n'as pas encore fait l'œuvre nécessaire dans la personne qui est en face de nous. Ou peut-être même, Seigneur, on croit avoir raison, simplement pour se rendre compte plus tard, des années, des décennies peut-être, qu'on était dans l'erreur. Alors je prie, Seigneur, pour une humilité sincère, réelle et manifeste dans ma propre vie. C'est le genre de prière qu'on ne peut pas faire pour quelqu'un d'autre, on ne peut le faire que pour soi-même. Alors je prie, Seigneur, que les mêmes sentiments qui t'habitaient m'habitent aussi. Paul disait d'être ses imitateurs comme lui était imitateur de Christ. Oui, Paul a été aussi serviteur des gens qu'il était appelé à gagner pour Christ. Il était serviteur de ceux auprès de qui il exerçait un leadership. Seigneur, que nous ayons cette même attitude d'humilité, cette même attitude du sens profond de la vocation qui nous a été confiée. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être des maîtres des débats, d'être le patron d'un raisonnement quelconque, mais tu nous as appelés à être ceux qui proclament ta grâce dans une génération comme celle-ci, qui est éloignée de toi et qui jour après jour se destine à la déchéance éternelle et à la condamnation éternelle. Alors Seigneur, pardon pour toutes ces heures que nous avons passé à débattre pour rien, alors que nous aurions dû voguer, chacun d'entre nous, dans un bateau pour s'éloigner un peu sur les eaux et proclamer ton évangile comme toi tu l'as fait. Alors je prie, Seigneur, que cette parole reçoive un accueil favorable chez ma sœur, chez mon frère, mais chez moi-même. Que tu l'arroses aussi par l'onction de ton esprit, afin, Seigneur, que qui que nous soyons, où que nous servions, où que tu nous aies placés, que nous puissions être à ton service, comprenant que l'important, c'est la vocation de Christ, pas que j'ai raison. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, simplement un petit rappel avant de vous laisser ce matin, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche en cours. Les inscriptions doivent être renouvelées semaine après semaine. Donc, si vous vous étiez inscrit pour la semaine dernière, votre inscription ne tenait que pour la semaine dernière. Vous devez donc vous réinscrire pour cette semaine. Si vous descendez un peu plus bas sur la page Facebook de l'Église, vous allez voir les deux façons de le faire, soit par téléphone, soit par courriel. On vous invite donc à vous inscrire pour cette assemblée du dimanche. Le seul critère, en fait, il y en a deux principaux, ou trois, bah, trois, on va dire trois critères. Un, être âgé de 8 ans et plus. L'année dernière, c'était 12 ans et plus. Cette année, on l'a descendu à 8 ans et plus. Donc, être âgé de 8 ans et plus. Deux, ne pas présenter de signes de COVID ou de signes grippaux, puisque on ne sait toujours pas faire la différence entre les deux. Et troisièmement, être disposé à louer Dieu et servir Dieu malgré les normes de salubrité publique qui nous sont imposées, donc la distanciation, le lavage des mains et le masque qui est imposé pendant toute l'assemblée. Donc, si vous répondez dans ces trois critères, n'ayez crainte, votre place est parmi nous dimanche matin. En fait, on ne devrait pas se priver pour un masque de la présence de Dieu et de la présence de nos frères et de nos sœurs, à moins que le port du masque soit vraiment une question de santé. Pour vous, il y a des gens qui sont asthmatiques et qui ne peuvent pas respirer avec le masque, à moins que ce soit le cas. Mais si c'est simplement que c'est un peu plus difficile, un peu plus pénible, un peu moins agréable, croyez-moi, on a besoin d'être ensemble, réunis pour célébrer Dieu. Alors, inscrivez-vous. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour le faire. Ne tardez pas, les places se remplissent un peu plus lentement que la semaine dernière, mais les places se remplissent malgré tout. Donc, inscrivez-vous aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée, que le Seigneur vous accompagne. Et puis, pensez à ce qui est important aujourd'hui. C'est pas d'avoir raison. Ce qui est important, c'est de proclamer l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.